Voilà, nous allons nous confier à la Vierge Marie, si vous voulez bien. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marguerite Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ce matin, il m'a été demandé de vous parler de la vie de Sainte Marguerite Marie. Je vais donc en quelques traits vous parler d'elle, sachant tout simplement d'abord que, vous savez, les saints et les saintes, on a l'impression que lorsqu'on lit leur vie, ils étaient saintes dès le départ. Saints ou saintes dès le départ. Ils sont nés et hop, ils étaient saints. Vous savez que le pape Jean XXIII, maintenant canonisé, Saint Jean XXIII, est venu ici à Paray-le-Monial en 1947, quand il était nonce apostolique à Paris. Et il disait sur les saints, eh bien, il faut prendre la substantifique moelle, c'est-à-dire voilà, ce qu'il y a de bien chez eux, et la mettre dans notre vie. Voilà, voilà. Il y a des passages de la vie de Marguerite Marie, peut-être, où on va se retrouver, nous. Mais n'ayons pas peur de dire, ben moi, je voudrais être saint ou sainte. D'abord, je ne sais pas qui d'entre vous aimerait être saint. Voilà, pas tout le monde, c'est dommage. C'est dommage, le monde irait mieux. Voilà, donc nous sommes... D'abord, un jour on le sera tous, enfin j'espère, pour ceux qui désirent aller au ciel. Je pose une autre question, qui a envie d'aller au ciel? Il y a déjà beaucoup plus de monde. Ça tombe bien parce qu'au ciel, il n'y a que des saints. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on n'a pas réalisé sur cette terre, il faudra peut-être le poursuivre et le purifier au purgatoire. Donc ça serait bien de faire un maximum ici. Alors le saint, c'est d'abord celui qui se laisse aimer par le Seigneur tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il se laisse appeler. Et Thérèse de Lisieux, vous savez qu'hier pendant la procession, on a parlé un petit peu de Thérèse de Lisieux, parce qu'il y a un moment où elle prend le texte de Marguerite, elle prend un texte de Marguerite Marie et elle comprend un peu plus l'amour, parce que c'est ça le sens du message de Paray-le-Monial, c'est le cœur de Jésus. Jésus montre son cœur pour dire « j'aimerais bien que vous compreniez un jour que je vous aime ». Voilà, c'est pourtant pas compliqué, il faut que je vous montre mon cœur pour vous dire que je vous aime. Et donc, Thérèse de Lisieux disait sur les saints, « si les saints revenaient nous dire leurs pensées sur ce qu'on a écrit d'eux, on serait bien surpris, ils seraient bien surpris, souvent ils ne se reconnaîtraient pas dans le portrait que l'on fait de leur âme. » Voilà, alors peut-être que je vais parler de Sainte Marguerite Marie, mais si elle devait apparaître là, elle dirait « mais c'est pas du tout ça que j'ai vécu ». Non, bon, on se contente de, déjà historiquement de parler d'elle et puis de vivre les grandes étapes de sa vie. Donc Marguerite Marie est née le 22 juillet 1647, donc en plein XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle le grand siècle des âmes. Elle est née le jour de la Sainte Marie-Madeleine, à Vérovres, donc pas très très loin d'ici, et elle est baptisée quelques jours plus tard, trois jours plus tard, le 25 juillet 1647. Son père s'appelle Claude Alacoque, donc ça a beaucoup fait rire, évidemment. Il est notaire royal et sa maman s'appelle Philiberte Lamine et elle est, Marguerite Marie, la cinquième enfant de la famille. Il y a d'abord Jean, l'aîné, qui a 7 ans. Après, il y a Claude Philibert, 5 ans, Jean Chrysostome, 2 ans, Marguerite, qui va donc pas prendre la place, mais elle sera donc la fille qui va être avec Catherine, qui est née 3 ans auparavant et qui déjà est partie au ciel. Voilà. Naîtront encore en 1649 Gilberte, qui mourra aussi en bas âge, et en 1651 Jacques, le dernier enfant. Les parents se sont mariés le 15 mai 1639. Et donc, Philiberte est fille de notaire. Elle épouse donc un notaire. Voilà. Et elle avait 25 ans et Claude, elle avait 27 ans, pardon, et Claude 25 ans. Il y a dans la famille de Marguerite Marie, voilà, une certaine aisance financière. Voilà, même s'ils sont de souche paysanne, ils ont embrassé, le père a embrassé une carrière de droit. Voilà, et ils vivent plutôt pas mal. La grande épreuve de Marguerite Marie, c'est que très tôt, elle va être en contact avec la souffrance. Mais surtout, elle va avoir très tôt un grand amour de l'Eucharistie. À l'âge de 5 ans, elle va chez sa marraine régulièrement, qui a un château qu'on appelle le château de Corcheval, pas très loin d'ici non plus, voilà, en direction de Mâcon, comme Vérovre. Donc, et sa marraine a une fille qui est religieuse, et dans le parc du château, il y a une petite chapelle, et dans cette chapelle est célébrée régulièrement la messe. Et à l'âge de 5 ans, entre deux élévations, Marguerite va faire le vœu perpétuel de chasteté et de pureté, à 5 ans. Elle lui dit « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté », dit-elle. Et Marguerite reconnaît qu'elle ne comprenait pas le sens de ses paroles. Mais 15 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, Jésus lui dit « Je t'ai choisi pour mon épouse et nous nous sommes promis fidélité lorsque tu m'as fait le vœu de chasteté. C'est moi qui te poussais à le faire pour me conserver ton cœur tout pur. Je te mis en dépôt aux soins de ma Sainte Mère afin qu'elle te façonnât selon mes desseins. » Voilà, donc Marguerite, parce qu'elle s'appelle Marguerite au départ. Elle ne s'appelle pas Marguerite Marie. On va voir après qu'elle va prendre le nom de Marie à sa confirmation. Mais Marguerite va, eh bien, être élevée d'une certaine manière à l'école de Marie. C'est donc Marie qui va aider Marguerite Marie à façonner son cœur. Ensuite, eh bien, il va se passer quelque chose de très dur pour Marguerite Marie. Elle va perdre son papa. À l'âge de 5 ans, Claude Alacoque va mourir et Marguerite aura 8 ans. À ce moment-là, tous les enfants vont être confiés à des pensionnats et ne va rester dans la famille que le dernier. Donc, d'une vie relativement heureuse, petite, jusqu'à l'âge de 8 ans, Marguerite Marie va être transportée dans un autre univers, celui du pensionnat. Marguerite n'échappe pas à cette décision, elle va être envoyée chez les Ursulines de Charolles, qui sont des Clarisses aussi. Elle dit « On me mit dans une maison religieuse, on me fit communier quand j'avais environ 9 ans, et cette communion répandit tant d'amertume pour moi sur tous les plaisirs et divertissements que je ne pouvais plus en goûter aucun. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la communion eucharistique lui donnait plus de joie, plus de bonheur que tous les biens du monde. Vous imaginez ? Moi, la seule chose que je veux, c'est Dieu, c'est l'Eucharistie. Voilà. C'est pour la petite anecdote, quand moi j'étais curé de paroisse, il y a des gens qui me disaient, des artistes, parce que quand j'étais à la cathédrale de Chalon, et alors c'est quand même un bel édifice, et les gens me disaient, pour les artistes, on va vous proposer un artiste, mais je ne sais pas, mon père, si vous vous rendez compte de l'honneur que nous vous faisons en vous proposant cet artiste dans la cathédrale. Et moi, je leur répondais, vous savez, moi, j'ai Dieu dans les mains tous les jours. Alors, si vous avez au-dessus, évidemment, je serais très impressionné. Et Marguerite Marie dit donc, effectivement, pour moi, le plus grand des plaisirs, c'est la communion eucharistique. Alors, on pourrait dire que ça commence quand même très tôt. Elle a une très forte idée de la communion eucharistique. Devant le Saint-Sacrement, je ne pouvais plus faire de prière vocale. Jamais je ne m'ennuyais. J'y aurais passé des jours et des nuits entières, sans boire ni manger et sans savoir ce que je faisais. Sinon, de me consumer en sa présence comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. Déjà, ça calme. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est amoureuse. Hein, vous savez, quand on n'arrive plus à boire ou à manger, qu'on ne pense plus à autre chose, ben voilà, ça a dépassé tout. Voilà. Et je pense que c'est à ça qu'on est appelé. Et si on ne demande pas ce désir-là au Seigneur, eh bien, voilà, je ne sais pas si quand on communie, on disait, oh, Seigneur, je voudrais t'aimer encore plus. Voilà, je ne sais pas si on fait ça. Le Seigneur va demander à Marguerite Marie, pendant l'heure de réparation, aussi la première communion, les premiers vendredis du mois, la communion réparatrice, voilà, il veut vraiment ce cœur à cœur. Ce n'est pas pour rien si le Seigneur se donne à nous dans la communion. Ce n'est pas anodin. Voilà, si le corps du Christ est dans mon corps, si son âme est dans mon âme, il y a cette communion, être avec, littéralement, ce n'est pas pour rien. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à chacun? Et il ne le fait pas juste avec certains, il le fait avec tout le monde. Ça veut bien dire qu'il veut notre amour à chacun. Donc, Marguerite Marie a un très grand attrait de l'Eucharistie. Le point, c'est qu'après avoir fait sa communion à l'âge de 9 ans, elle tombe malade, immédiatement en 1657. C'est une maladie assez mystérieuse, comparable un peu à la maladie de Thérèse de l'Enfant Jésus. Aucun diagnostic de la part des médecins et aucun remède ne va avoir raison de la maladie de Marguerite, qui va durer 4 ans. Donc, pendant 4 ans, elle va être alitée. Voilà. Donc, elle va connaître l'épreuve du deuil avec son père, de la séparation d'avec sa famille, alors, en étant en pension, et l'épreuve de la maladie. Voilà, aussi. Donc tout ça, elle le connaît. Donc on peut demander son intercession déjà à travers ce que nous vivons personnellement dans nos vies. Marguerite Marie va demander sa guérison à la Sainte Vierge et elle va faire une promesse à ce moment-là. Elle va promettre de rentrer dans un ordre qui portera le nom de Marie. Marie, guéris-moi et je te promets de rentrer dans un ordre qui aura le nom de Marie. Et c'est à l'âge de 14 ans, d'une certaine façon, qu'elle est libérée de la maladie. C'est une adolescente, voilà, qui aura quand même eu une vie perturbée par ses années de maladie, mais elle va rattraper son retard. Elle va vite oublier le vœu qu'elle a fait. Ah ah ! Là, ça devient intéressant, là. Vous voulez savoir? Eh bien, comme toutes les filles de son âge, elle aime danser, elle aime aller au bal, elle aime rencontrer des garçons. Et Jésus, eh bien, va lui manifester sa présence. Elle va s'intéresser aux choses du monde, comme je le vous disais, elle aime les beaux habits, elle aime danser. Il ne faut pas oublier qu'entre 8 et 14 ans, elle n'a pas vraiment vécu. Alors, elle vit à la ferme de l'autre cour. C'est quand on arrive à Vérovre, juste à côté. Mais elle vit sa période de Cendrillon à ce moment-là. Tout le monde connaît Cendrillon ? Vous savez, quand j'étais à Digoin, j'ai fait un enterrement et je demande, c'est une vieille dame, et je demande aux parents... à la famille, le neveu, je lui dis, vous pouvez me parler de votre tante? Et elle me dit, lui me dit, oh mon père, vous connaissez Cendrillon? Alors je fais, oui. Vous connaissez les sœurs de Cendrillon? Je fais, oui, elle était pareille. C'est difficile après de rattraper pour des obsèques, c'est pas facile de parler. Anastasia et Javotte. Donc, si vous voulez, la période Cendrillon de Marguerite Marie, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va avoir sa grand-mère, sa grande-tante et sa tante. Elle n'en aura pas deux, mais trois. Trois sœurs de Cendrillon qui vont être vraiment très, très dures. Voilà. À tel point qu'avec sa maman, eh bien, elles vont subir beaucoup d'humiliations. Par exemple, Marguerite Marie aime aller à la messe. À l'Eucharistie, et le dimanche, on va lui cacher ses habits pour qu'elle n'y aille pas. Il n'était pas question d'aller se présenter à l'Eucharistie avec les habits de travail. On va lui interdire de quitter la propriété. Elle va obéir. Elle va aller à l'extrême limite de la propriété, là où il y a un rocher qui lui permet de se cacher. Elle va se cacher dans le pied du rocher et à l'abri de la vue de ceux qu'elle voyait. Elle voyait au loin le clocher de l'église de Vérovre et elle adorait le Seigneur présent dans l'Eucharistie qui est dans le tabernacle de l'église. Donc, les trois personnes s'étaient mis d'accord aussi pour que quand Marguerite Marie demandait quelque chose, il fallait que les trois soient d'accord. Donc il y en a toujours une qui disait non. Donc elle ne pouvait rien faire. Donc elle a vécu pendant pas mal d'années ces périodes d'humiliation, à tel point que les voisins se sont rendus compte de ça parce qu'en fait elle n'était même pas nourrie correctement. Et donc les voisins apportaient en cachette des pommes à sa mère et à elle donc pour qu'elle puisse se nourrir correctement. Donc elle va connaître aussi, d'une certaine manière, la faim et l'humiliation. À l'âge de 14 ans, il va y avoir un autre combat dans sa vie. Voilà, c'est celui du mariage. Ça ne veut pas dire que se marier est toujours un combat. Ça peut, mais le sacerdoce aussi, vous savez. C'est-à-dire que c'est une jeune fille, malgré tout ce qu'elle vit, eh bien, qui plaît. Donc, beaucoup de jeunes gens vont tourner autour d'elle. C'est aussi un très bon parti pour Marguerite de se marier, et même pour sa maman, puisqu'elles pourront partir de ce joug familial. Voilà, pourront échapper à leurs conditions. Donc, elle pourrait être affranchie de la belle famille, mais à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle va au bal, parce qu'elle est allée au bal, Jésus lui apparaît sous la forme de Lecce Homo. Alors, Lecce Homo, c'est Jésus, donc, qui est couronné d'épines, flagellé, et qui est présenté à la foule par Pilate. Voilà. Alors, cette représentation va toucher une autre sainte, bien des années auparavant, qui est Thérèse d'Avila, que nous avons fêtée hier, puisque Thérèse d'Avila va passer, après 20 ans de vie médiocre au couvent, elle le dira elle-même, elle passe devant la statue de Lecce Homo, et c'est ça qui va convertir son cœur. Donc on peut rester pendant des années religieux, religieuse, prêtre, médiocre, et avoir, comme ça, tout d'un coup, eh bien, sa vocation qui se réalise en voyant le Christ. Alors, Thérèse d'Avila a vu la statue, comme Thérèse de Lisieux, elle va être guérie en voyant le sourire de Marie en statue. Eh bien, en ce qui concerne Marguerite Marie, elle va avoir une apparition et le Seigneur va lui montrer son aspect comme cela. Voilà. Et il lui dit, ne te souviens-tu pas de ce vœu que tu m'as fait quand tu avais 5 ans ? Alors, il y a un thème qu'on peut retrouver dans la Bible qui est la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Quand il veut quelqu'un, il le veut. Voilà. Alors, grosse question, est-ce que Marguerite Marie est libre devant ce fiancé ? Alors, vous pouvez lire un bouquin, un livre de Jean Ladame qui reprend les textes de dessus à Marguerite Marie. Jésus est très exigeant. Pourquoi ? Parce que l'amour est exigeant. Vous savez, on ne peut pas dire à quelqu'un « je t'aime » à l'essai. On ne peut pas dire à quelqu'un « je vais essayer de t'aimer ». Si quelqu'un vous dit « je t'aime » et vous lui répondez « moi, je vais essayer de t'aimer ben, ». On va dire « faut pas te forcer, surtout hein. ». Voilà. L'amour, ça ne comprend pas l'essai. Où on y va, où on n'y va pas. Il y a toujours un moment où on se décide. Donc, Marguerite Marie va vraiment forger sa volonté et dire à la Sainte Vierge, eh bien, c'est vrai que j'ai fait cette promesse, j'ai tissé les liens avec ma mère pour être conforme à la volonté divine. Jésus l'a choisi. Et effectivement, Marguerite Marie va devoir répondre librement à cet appel. Parce que Jésus lui dit, si tu me suis, c'est super. Ce n'est pas exactement comme ça qu'il lui dit. Hein. Mais si tu ne me suis pas, je t'abandonne. il lui fait une grosse déclaration. Ou tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Ne te souviens-tu pas du vœu que tu m'as fait ? Marguerite va quitter le bal et à partir de ce moment-là, elle va être très ferme vis-à-vis de sa famille. Elle dit « Non, je ne me marierai pas, je deviendrai religieuse » puisque au point de départ, toute sa famille voulait la marier avec des prétendants. Et intérieurement, elle sentait que ce n'était pas ça. Voilà. Donc elle se décide à être religieuse. Elle va donc lutter contre sa famille de 18 à 24 ans. Alors on dit, très bien, tu veux être religieuse. Bon, dans ce cas-là, tu vas aller dans un monastère qu'on va décider pour toi. Et ça sera un monastère à Mâcon, où une de ses tantes est déjà religieuse. Donc on l'amène là, et Marguerite Marie dira... J'irai où Jésus veut que j'aille. Voilà l'importance de sa visite. Elle va être amenée à venir à Paray-le-Monial et là, elle entend dans son cœur « C'est ici que je te veux ». Alors ça, cette parole, ce n'est pas simplement pour Marguerite Marie, c'est pour chacun d'entre nous. Si nous sommes à Paray-le-Monial, c'est que quelque part, le Seigneur nous a dit à chacun et à chacune « C'est ici que je te veux ». Pour quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, mais c'est ici que je te veux pour te dire quelque chose. Voilà, si nous sommes venus à Paray, voilà, Paray c'est une invitation. Voilà, pour Marguerite Marie bien sûr, mais pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers eh bien, la proximité de son cœur ? Donc pour elle, c'est clair, elle va rentrer dans ce monastère à 24 ans. Alors, elle pense que toutes les religieuses sont des saintes quand elles rentrent. Je ne vois pas pourquoi vous faites des commentaires. Vous savez, moi j'avais lu la vie de Sainte Marguerite Marie avant, et puis donc j'avais vu un petit peu, il y a quelques années avant de rentrer au séminaire, et il y avait l'évêque de Toulon qui s'occupait des séminaristes à l'époque, Dominique Ray, voilà, qui n'était pas évêque, et qui me disait, tu sais, le séminaire, c'est dur, ça va pas être facile, déjà pour mon caractère. Et moi, comme j'avais lu la vie de Sainte Marguerite Marie avant, je me suis dit, c'est pareil. Alors je m'imaginais avec une serpillière sous les cloîtres, en train de laver par terre. Comme ça. Je me suis dit, ça doit être comme ça. Et puis la première chose que j'ai vue, c'était un séminariste qui regardait Indiana Jones à la télé. J'ai dit, je pense que je vais pouvoir m'adapter, en fait. Donc, à 24 ans, elle rentre au monastère. Et le plus intéressant, c'est que parmi les novices qui sont là, c'est la plus âgée. La plus jeune a 18 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle pour l'époque une vocation tardive. Voilà. Voilà. C'était aussi un placement pour les filles qui ne pouvaient... Voilà, parfois, les filles n'avaient pas forcément la vocation, mais on les mettait là. Voilà. Donc, elle a vraiment une vocation et elle a dû lutter depuis sa tendre enfance. Elle a dû faire des choix. Donc, si on se pose des questions sur un Jésus jaloux sur la liberté de Marguerite Marie, aucune inquiétude à avoir. Elle a été formée pour répondre à l'appel de Jésus dans ce monastère. Elle rentre le 20 juin 1671, donc, et 2 ans auparavant, elle a fait sa confirmation. Et c'est là où elle a ajouté eh bien, le nom de Marie à celui de Marguerite. Voilà, elle va le conserver, elle va conserver son nom comme religieuse. Et donc le 5 novembre 1672, elle va faire sa profession religieuse perpétuelle jusqu'à sa mort. Et jusqu'à sa mort, elle va avoir une grâce, voilà, qui est une grâce assez extraordinaire, c'est qu'elle va jouir de la divine présence, elle va sentir Dieu dans sa vie. Souvent dans notre vie spirituelle, on dit oh, « mais je ne sens pas Dieu voilà. ». Ben, faut savoir qu'il y a des saints qui l'ont senti et d'autres qui ne l'ont jamais senti. Voilà, il y a deux Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit « je n'ai jamais senti Dieu voilà. ». Et Mère Teresa aussi, qui a vécu dans les ténèbres pendant 50 ans. Mais il y en a d'autres. Ça veut dire que si on ne sent pas Dieu dans sa vie, ce n'est pas forcément qu'on n'est pas saint. Il y en a qui le sentent, d'autres pas. Donc, elle va faire sa profession religieuse. C'est une sœur un peu particulière. Il y a des choses, elle est très maladroite. Voilà. À chaque fois qu'elle prend quelque chose, elle n'est pas assez attentive, donc elle le laisse tomber. Donc ça agace les autres sœurs, parce qu'elle casse des choses. Voilà. Elle n'est pas très adroite, elle est assez gauche. Et eh bien, effectivement, il y a une chose qu'elle ne supporte pas, c'est le fromage. Donc la famille s'est bien mis d'accord pour qu'elle ne mange pas de fromage. Et un jour, on lui apporte, eh bien, on fait passer le fromage devant elle, et elle dit... Eh bien, il faut vaincre ou mourir. Alors, elle se force à manger du fromage et à chaque fois qu'elle en mangera, eh bien, elle ira vomir. Voilà. Donc, mais elle va vivre vraiment cette mortification. Pour nous, ça ne nous paraît pas grand-chose. Pour certains, ce n'est pas du tout une mortification. Mais pour elle, ça l'était. Donc, elle va quand même être éprouvée dans... sa profession religieuse, parce qu'on veut savoir, cette fille un petit peu particulière, on va la retarder à la profession pour voir si vraiment elle a un réel désir. Voilà. Et elle dira au Seigneur, « Hélas, mon Seigneur, vous serez la cause que l'on me renverra. » Elle va être persuadée qu'en fait, elle n'est pas vraiment faite pour le monastère, puisque même si dans son cœur, elle le sent, mais on lui dit, « Ben non, elle est tellement particulière. » Vous savez, c'est comme le curé d'Ars. Le curé d'Ars, il a été renvoyé du séminaire parce qu'il était il était débilissimus. Ça veut dire très faible en étude parce qu'il retenait pas les formules latines. Voilà. Donc il a été renvoyé du séminaire. Voilà. Aujourd'hui, le patron de tous les curés de l'univers. Mais ça veut vraiment dire que l'Église est faite d'hommes. Donc Jésus va lui répliquer ceci. « Dis à ta supérieure qu'il n'y a rien à craindre pour te recevoir, que je réponds pour toi, que si elle me trouve solvable, c'est le Seigneur qui parle, hein, je serai ta caution. » Or, fidèlement, Marguerite Marie dit, vous imaginez Marguerite Marie qui va voir la supérieure, dit « Jésus m'a dit de vous dire que... » Fidèlement, donc, elle va répéter à la mère de Sommez le message du ciel. Je ne sais pas comment, moi, que j'aurais été supérieur, j'aurais pris ça. Pas évident. Vous avez une religieuse qui vous dit, vous savez, le ciel me parle. Hein, moi. La supérieure lui ordonne alors d'avoir certitude et sécurité de demander pour elle à Dieu la pratique exacte de toutes les observances de la règle. La mère supérieure dit, celle-là, on va quand même la cadrer. Hein. Ainsi sera-t-elle utile à la religion, c'est-à-dire à la famille religieuse à laquelle elle appartient. Parce que la mère de Sommez, qui est une bonne mère quand même, voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire chez cette fille. Elle dit, elle peut quand même donner un grand bienfait à notre couvent. Mais vous savez, il n'y a rien de pire que les saints, hein, entre guillemets. C'est des gens très particuliers parce qu'on a du mal à les gérer, en règle générale. Surtout dans les couvents. Voilà ce que dit le Seigneur. Je t'accorde tout cela, c'est-à-dire d'être fidèle à la règle, car je te rendrai plus utile à la religion qu'elle ne le pense, la mère de Sommez, mais d'une manière qui n'est encore connue que de moi. Et désormais, j'ajusterai mes grâces, il est sympa le Seigneur, j'ajusterai mes grâces à l'esprit de ta règle, à la volonté de tes supérieurs et à ta faiblesse. C'est-à-dire que le Seigneur ajuste ses grâces à la règle, à la volonté des supérieurs et à la faiblesse. En sorte que tu te tiennes suspect tout ce qui te retirera de l'exacte pratique de la règle. Je veux que tu la préfères à tout le reste. De plus, je suis content que tu préfères la volonté de tes supérieurs à la mienne. Il est sympa, Jésus. Hein, ouais. Ben, ça veut dire que l'obéissance nous fait vivre dans l'humilité. Et Dieu sait si c'est pas facile, l'obéissance. Je peux vous en dire quelque chose. Voilà. Moi, c'était la chose que l'évêque avait le plus peur pour moi. Il m'a dit, Monseigneur Segui, qui était voilà, qui avec son accent du sud, disait, vous n'aurez pas trop de problèmes pour les Weissens. Je dis, non, ça devrait aller. Ouais, parce qu'il faut me le dire. Hein. C'est le truc qu'il avait le plus peur pour moi. Je peux comprendre. Voilà. Je parle de moi, mais c'est pour aussi... On peut se l'appliquer à chacun, c'est pour ça. Donc, le Seigneur trouve vraiment, arrive à passer en fait à travers les préceptes humains. Et quand on vit dans l'humilité, c'est là, vous savez, de la crèche à la croix, Jésus il vit l'humilité. Donc il se reconnaît dans ceux qui vivent la même chose, dans la petitesse. Hein, on se souvient, si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà. Donc il y a plein de phrases, plein de dialogues comme ça entre Jésus et Marguerite Marie. Donc elle va faire une retraite aussi de 10 jours, selon la coutume, pour préparer son entrée. Elle va faire une retraite, le 27 octobre, une retraite de solitude. Et on avait confié précédemment à Marguerite Marie le soin de garder l'ânesse au couvent, dont la supérieure prenait le lait. Cette ânesse paissait dans un petit pré au bas de l'enclos et avait un petit ânon que l'on ne pouvait attacher et qui courait sans cesse dans le potager. Il fallait donc surveiller sans répit ces bêtes indociles. Impossible à Marguerite Marie donc de se laisser aller au goût de l'oraison, parce que les ânes pouvaient manger ce qu'il y avait dans le jardin. Donc, elle continue sa tâche de garder les animaux et ce qu'il va se passer, c'est que vous l'avez peut-être entendu hier, eh bien, elle va avoir un contrat, entre guillemets, avec les anges, puisque les anges vont lui dire, eh bien, tu peux garder les bêtes en vivant cet esprit d'oraison. Nous, on va effectivement faire ce travail de prière à ta place. Voilà. Le Seigneur la combla des grandes faveurs dans ce pénible emploi. Quant à la sainte, pas du tout fâchée d'une telle tâche, elle disait... Puisque Saül, en cherchant des ânesses, a trouvé le royaume d'Israël, il faut que j'acquière le royaume du ciel en courant après de pareils animaux. Il est vrai que jusqu'à l'Angélus du soir, il ne laissait point notre sainte en repos. Elle devait ensuite les faire manger à l'étable. Marguerite Marie, toutefois, ne s'en plaint pas. Mon souverain, dit-elle, me tenait une fidèle compagnie. Voilà, on se souvient aussi de la phrase de Thérèse d'Avila, le Seigneur est aussi dans les marmites. Voilà, dans les casseroles, quand vous faites votre vaisselle, ça. Ça, c'est vrai. Il y en a qui le vivent déjà, qui sont déjà sur le chemin de la vie de Marguerite Marie. C'est merveilleux. Toutes les courses qu'il lui faut faire à la poursuite des deux bêtes n'empêchent nullement, en effet, son intimité avec le Sauveur. Le désir de l'aimer augmente en elle, au contraire, avec celui d'être étroitement unie à lui. Et notre sainte d'ajouter, j'étais aussi contente les soirs que si j'avais été tout le jour devant le Saint-Sacrement en oraison. Et selon la tradition du monastère de Paray, un jour qu'elle s'apprêtait à interrompre son colloque avec le Christ pour chasser l'ânesse et l'ânon qui pénétraient au potager, Jésus lui aurait dit ceci, « Laisse-les faire, ils ne feront point de mal ». Et à l'intérieur du couvent, cependant, quelques regards observaient, peut-être sans bienveillance, les deux animaux parmi les légumes. Voilà, il y avait des sœurs qui regardaient, en fait, il y a des sœurs qui n'étaient pas très sympas, hein, qui regardaient quand même si Marguerite Marie, comme elle était tellement particulière, si elle faisait bien son emploi. Mais d'ailleurs, elles sont allées voir la supérieure en disant « Marguerite Marie garde mal les bêtes et tout ça », elles sont allées voir dans le jardin et on a vu l'ânon et l'ânesse, complètement immobile, au milieu du potager. Voilà. Donc évidemment, là, elle ne pouvait rien dire. Voilà. Ensuite, il y a les visions de Marguerite Marie. Alors, vous savez, la grande vision, c'est celle du 27 décembre 1673, quand Jésus lui dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Mon cœur est si passionné d'amour, et pour toi en particulier. » Voilà. Alors, Cette expression du Seigneur, mon cœur est passionné d'amour. D'abord, je le dis souvent lorsque je présente le message de Parelmonial, je ne sais pas si on a déjà dit ça à quelqu'un dans la vie. J'ai un cœur passionné d'amour pour toi. Il y en a qui sont mariés, là, ici ? Oui ? Levez la main, s'il vous plaît. Alors, essayez de dire à l'autre, j'ai un cœur passionné d'amour pour toi. Non, mais pas maintenant. Attendez le moment. J'ai un cœur passionné d'amour pour toi. On a envie de dire, bon, c'est gentil, mais t'en fais peut-être un peu beaucoup, là. Hein, t'as quelque chose à me dire. Une femme pourrait dire à son mari, t'as envie d'aller boire un verre avec tes copains, tu veux voir un match ce soir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, justement, il n'y a rien derrière en ce qui concerne Jésus. C'est de l'amour gratuit, totalement. J'ai un cœur passionné d'amour pour toi. C'est-à-dire que je t'aime tellement, je suis prêt à mourir pour toi. Voilà. Je suis prêt à mourir pour toi. Vous savez, souvent, je disais ça pendant les préparations au mariage. Je disais ça aux garçons. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour elle ? Je voyais les yeux du garçon. Oui, pas. J'ai pas beaucoup réfléchi à ça en fait. Ben, le Seigneur, il est prêt à mourir pour nous, il l'a prouvé. Je suis prêt. Mon cœur est si passionné d'amour, et pour toi en particulier. Alors il le dit à Marguerite Marie, mais il le dit à chacun d'entre nous. Et il lui montre son cœur, ce cœur brûlant d'amour, comme une fournaise ardente. Marguerite Marie dira qu'elle voit une fournaise, en même temps un cœur comme en cristal, comme je vous disais, il n'y a rien de caché. Dieu se montre totalement, il ne cache rien. Ce n'est pas du tout le cas de l'homme qui, depuis la Genèse, Dieu dit à Adam, « Où es-tu ? Je ne te vois pas, je ne vois plus à l'intérieur de toi. » Il y a un midrash juif qui dit que depuis le péché original, nous sommes devenus opaques les uns par rapport aux autres. On n'arrive plus à se voir de l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'on n'arrête pas de te dire « Mais je ne comprends pas ce que tu as voulu dire, mais tu l'as dit sur ce ton-là et j'ai compris ça. » C'est fatigant entre nous, hein, parfois. Donc effectivement, on a du mal à lire dans l'autre. Et Jésus est un livre ouvert. On peut vraiment lire en lui. Et il dit « Non, je ne veux rien te cacher, je veux tout te montrer. Je ne te cache rien. Je t'aime et je te demande d'y croire. » Alors moi, une fois, il y a une vieille dame qui m'a dit, qui était veuve, qui m'a dit « Vous savez, mon mari m'aimait beaucoup. » Alors je lui ai répondu « Prouvez-le. » Oh ! Elle m'a dit « Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous le prouver. » Il me faisait des câlins, des cadeaux, il était tendre. Je ne sais pas. Je lui ai dit « Peut-être qu'il jouait la comédie, en fait. » Oh ! C'est vrai ? Peut-être qu'il jouait à la comédie ? Mais ça arrive, hein ? Des gens qui, voilà, ils peuvent avoir une double vie. Alors, elle était un peu décontenancée. Maintenant, elle est morte. Hein. Elle a la réponse. Mais en fait, je lui dis, je pense que votre mari vous aimait vraiment. Mais surtout, ce que je crois, c'est que vous avez choisi d'y croire. Et en fait, l'amour, on choisit d'y croire. On n'a jamais la preuve totalement que l'autre nous aime. Et quand Jésus nous dit « Je vous aime, je vous montre mon cœur », ben, il y a une part de décision. Je décide d'y croire. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur m'aime, mais c'est même dans la vie, on dit oh, « Je ne comprends pas pourquoi on m'aime avec tous les défauts que j'ai, avec tout ce que je suis, tout ça. Comment ça se fait qu'il m'aime ? Pourquoi le Seigneur, il m'aime malgré mes faiblesses, mon péché ? Mes infirmités, ma misère. Pourquoi le Seigneur m'aime ? Eh bien, c'est un mystère. Et le mystère, ce n'est pas un problème. Le problème, il est devant nous, on peut le régler avec notre raison. Mais le mystère, il faut accepter d'en faire partie. Donc, on n'aura jamais la réponse, même au ciel, pourquoi le Seigneur nous aime. Parce que ça ne s'explique pas, ça se vit. Souvent, nous, on voudrait avoir une explication. Mais on n'a pas d'explication. C'est un état de fait. C'est le Seigneur qui dit, j'ai un cœur passionné d'amour pour vous. Voilà. Alors, on pourra contourner la question dans tous les sens. Si on n'accepte pas de se laisser aimer simplement, gratuitement, et c'est à cela que Marguerite Marie nous invite, c'est-à-dire accepter l'amour gratuit sans condition. Je ne l'ai pas mérité, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, notre obstacle le plus fort, c'est nous-mêmes. C'est parce qu'on ne l'accepte pas, parce qu'on ne le comprend pas. Mais quand on est passé dans l'acceptation, en acceptant de se laisser dépasser par l'amour, c'est là où on rentre dans une véritable communion. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Voilà. Alors, il y a eu d'autres apparitions. Effectivement, Marguerite Marie a eu beaucoup d'apparitions de locution intérieure, de vision intérieure. Voilà. Elle va être nommée maîtresse des novices et elle va demander à ses novices de se consacrer au cœur de Jésus en 1685, ce qui va provoquer des remous dans la communauté. Elle a vécu aussi de grandes humiliations et de persécutions dans sa communauté. Un jour, Jésus va lui montrer tous les péchés des autres sœurs. Il va lui dire, je te demande de vivre en réparation, tout ça. Et je te demande de leur dire. Alors elle va voir les autres sœurs, elle dit, ben voilà, vous avez fait ça, 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 ça. Et le Seigneur me demande de m'offrir. Alors évidemment, on a jeté de l'eau bénite sur elle, on l'a battue. Les religieux ne sont pas sympas, les sœurs, entre elles. Donc effectivement, elle a vécu des persécutions aussi dans le sein du couvent. Elles n'étaient pas toutes méchantes, les religieuses. Hein. Il n'y avait pas une gentille et tout le reste de méchants. Mais voilà, ce n'était pas toujours simple, même dans une communauté religieuse. Elle a aussi rencontré de la compréhension, de la part de sa supérieure notamment. Ce qui est important de retenir, donc, c'est qu'elle va mourir le 16 octobre 1690, et au moment où elle meurt, on dit « la sainte de Paray est morte ». Elle a eu une aura, elle est connue, mais 2 ans avant sa mort, le 2 juillet 1688, elle a une vision du Sacré-Cœur, et dans cette vision, eh bien, elle a la vision que l'ordre de la visitation reçoit la mission de répandre l'amour du cœur de Jésus. Pas seulement la visitation, mais aussi... Oh, vous savez tous ça ? Vous savez qu'on a un jésuite dans la salle. Hein ? Il a grosse pression. Voilà. La compagnie de Jésus a comme mission de propager cette dévotion et d'en faire connaître les bienfaits. Donc, si vous voulez connaître cette vision, on la voit dans la chapelle des Jésuites, justement, à la Colombière, la chapelle Clos de la Colombière, puisque j'en ai pas encore parlé, Clos de la Colombière. C'est la mosaïque qui se trouve au-dessus du tabernacle. Donc. Alors, Clos de la Colombière, j'en ai moins parlé parce que j'ai voulu vous parler plus de la vie de Marguerite Marie, mais Clos de la Colombière, c'est celui qui va authentifier les apparitions. Vous savez, c'est juste quelques mots sur Saint-Claude. Vous savez, il y a une réelle... On a parlé d'humilité tout à l'heure. C'est quand même quelqu'un qui réussissait très bien, qui a fait ses études à Paris notamment, donc qui était précepteur des fils de Colbert, un des ministres de Louis XIV, et qui aurait pu avoir une carrière mondaine, hein, ecclésiastique. Voilà. Et puis, bon, à la place de Versailles, bon, ça a été Lyon et ensuite Paray-le-Monial, mais la transition n'a pas dû être facile. Versailles, Paray-le-Monial, à l'époque du roi Louis XIV. Il y a des saints comme ça, il y a Saint-François-Régis aussi, voilà, qui voulait, il disait, ma robuste constitution me permet d'espérer pour le Canada. Et son évêque lui a dit, votre Canada, ça sera le Vivarais. Mais il a fait plus de bien, encore dans l'humilité, à cet endroit-là, à la Louvée, que s'il était parti au Canada. L'essentiel, c'est d'être là où Dieu nous veut. Pas toujours facile. Et où est-ce que tu me veux, Seigneur ? C'est une question qu'on peut poser. Et donc, Claude la Colombienne ne serait jamais venu à Paray. Et d'ailleurs, Jésus lui dit à Marguerite Marie, en parlant de Claude, « Voici mon parfait serviteur et fidèle ami. » Ça, ça me met toujours la pression quand je dis ça. Parce que je me dis, le prêtre, il est parfait serviteur et fidèle ami. Voilà, donc, effectivement... Il prépare aussi le cœur de cet homme dans l'humilité pour authentifier les apparitions de Marguerite Marie. Il ne va pas rester très longtemps à Paray. Il va rester 1 an et demi à peu près. Il va revenir y mourir. Mais quand il va partir, Marguerite Marie, qui est humaine, qui s'est aussi attachée voilà, à ce confesseur, eh bien, quand il va partir pour l'Angleterre, Marguerite Marie va être triste et Jésus va lui dire « Est-ce que je ne te suffis pas ?» Voilà. Dieu peut remplir un cœur. Voilà. Donc, ces cœurs-là, cœur de Marguerite Marie, le cœur de Claude la Colombière, le cœur de Jésus, ces trois cœurs, vous avez d'ailleurs une vision des trois cœurs au-dessus des reliques de la chasse de Claude la Colombière. Vous pouvez demander aussi cette grâce de la confiance, de se laisser guider, voilà, par l'intercession de Marguerite Marie et Claude la Colombière. Eh bien, ce saint et cette sainte, eh bien, ont voulu nous faire connaître la dévotion au cœur du Christ. Et cette dévotion, ce n'est pas simplement un mot désuet, dévotion, c'est le désir d'abord de se laisser aimer, tout simplement, de se laisser embraser de l'amour de Dieu, parce que Claude la Colombière, en entendant Marguerite Marie, dira oh, « Mais Seigneur, moi je ne peux pas aimer comme Dieu veut que j'aime, il faut que tu me donnes un autre cœur. » Alors, on peut le demander ici à Paris. Seigneur, donne-moi, comme on le disait hier à la chapelle de la Visitation, donne-moi ce cœur de chair. Ce cœur de chair, c'est ce cœur qui accepte d'aimer et d'être aimé, donc d'être vulnérable, donc de souffrir. Et aussi, ce cœur, c'est celui qui accepte de donner, d'être le canal de la grâce. Hier, on fêtait Sainte Thérèse d'Avila, et elle a une très belle image en disant que, voilà, on est aussi comme ce canal, voilà, qui est là pour relayer, eh bien, l'eau vive. Voilà, vous pourrez aussi trouver sous le tabernacle bien ce psaume 42 avec les deux serres. Vous savez, il y a mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Voilà. Eh bien, cette soif que Dieu a d'aimer et d'être aimé, d'être consolé, eh bien, si nous sommes ici à Parelmonial, c'est pour être attentif à ce que le Seigneur a à nous dire au cœur. C'est pour consoler son cœur. Et c'est pour être des missionnaires de son cœur, c'est-à-dire des personnes avec un cœur donc capable de répandre autour d'eux, à travers tout ce qu'ils sont, à travers toute leur histoire, même si ce n'est pas la même que Sainte Marguerite Marie, mais d'être ceux que le Seigneur a choisis pour manifester son amour au monde. Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. Est-ce que nous croyons que Dieu peut se servir de chacun d'entre nous pour lui parler de lui ? Même si on n'est pas saint, même si on n'est pas canonisé, eh ben allons-y, préparons-nous à la messe. Amen.